Je suis totalement satisfait.
Moi, c'est une compagnie que j'engage. En combinant les deux, je vais précisément trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous, merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose Parole aux auditeurs. Depuis quelques semaines, les prix des produits de grande consommation ont connu une variation à la hausse. Cette situation que connaît le panier de la ménagère congolaise serrée selon plusieurs observateurs due à la dépréciation du franc congolais. Plusieurs tableaux devant les bureaux d'échange à Kinshasa affichent notamment une moyenne autour de 1150 francs congolais pour un dollar américain. Selon plusieurs observateurs, il est urgent que la structure des prix et le comité de pilotage de la politique monétaire de la Banque centrale se concertent pour une solution adéquate. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous au 081-890-6315 pour vos interventions en direct. Le débat s'étend également sur la page Facebook de Parole aux auditeurs. Paul Badianyaman est à la mise en onde de ce magazine. Julie Fezabongonda est au standard. Et Gir Longembo est à la réalisation et coordination. Et Piro et la Méji vous les présentent sous la supervision de Martin Sebougiango. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Piero et Amélie.
Devant la baisse de recettes des matières premières, il y a quelques semaines, le comité de pilotage de la politique monétaire de la Banque centrale avait demandé au gouvernement congolais de diversifier les sources de revenus, par exemple l'investissement dans les secteurs agricoles, pour faire face à la baisse de réserves stratégiques internationales. Il y a deux semaines, Parole aux auditeurs a abordé la question de ces réserves qui sont en dessous de 1 milliard de dollars américains, mais sur terrain, la dépréciation du franc congolais a comme corollaire aujourd'hui l'augmentation des prix de grande consommation sur les marchés et plusieurs personnes dans des magasins évitent de pouvoir afficher les prix tout en tenant compte du taux d'échange. Comment alors arriver à faire face? Certains observateurs estiment qu'il revient pour le moment à la structure qui gère les prix ainsi qu'à la Banque centrale de pouvoir se concerter pour prendre des mesures urgentes et permettre à la population de faire face à cette situation. Alors, qu'en pensez-vous? C'est la question au centre de notre échange. Sylvain, vous êtes à Bounia, dans la province de l'Ituri. On va revenir à vous. Plusieurs messages dans ce débat qui se déroule sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Jérémy Bétopé dit ceci: le problème aujourd'hui est plus lié à l'incertitude sur les plans politiques qui fait que même des investisseurs, plusieurs personnes ont rapatrié leurs capitaux à l'étranger et aussi ceux qui s'occupent de l'importation et hésitent de faire entrer de marchandises, alors nous allons partir dans la spéculation. Cela veut dire que l'instabilité politique a un rôle très important sur cette situation économique. Rappelons quand même que la crise économique, la crise des matières premières, avait déjà précédé toutes ces incertitudes des éléments politiques de ce moment. Notre ami Glorieux Moukoko, lui, estime que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'avoir une bonne politique monétaire équilibrée qui peut aujourd'hui assurer les uns et les autres sur la balance commerciale. Alors, Sylvain, vous êtes à Bounia, dans la province de l'Ituri. Plusieurs fois, nous sommes revenus avec vous dans ces débats des questions économiques dans Parole aux auditeurs. Cette question de la dépréciation de la monnaie, c'est pas aujourd'hui qu'on en aborde. On en a abordé plusieurs fois et aujourd'hui, on voit là où nous sommes arrivés, ainsi que les conséquences sur les prix des choses sur le marché. Alors aujourd'hui, c'est une question de voir quelles sont les mesures qui peuvent être prises, que vous pouvez aussi proposer pour qu'on arrive à faire face à cette situation. Sylvain, bonjour et bienvenue.
Merci, Gérard. Je voudrais d'entrée de jeu remercier la Radio Capi pour avoir une fois de plus initié cet échange autour des questions économiques, puisque nous, en économie, nous disons que l'économie est le socle de la vie. Tout ce qui se parle aujourd'hui, et s'il y a organisation de l'État, s'il y a débat politique, s'il y a échange et colloque sur tous les plans, c'est pour tout simplement mener la vie de la population dans une situation qui doit être la meilleure ou améliorée continuellement. Alors, revenant sur votre question, monsieur le journaliste, il faut dire que cette question pose des postulats. Le premier postulat, c'est qu'il faut partir du fait que toute chose reste égale par ailleurs. La consommation des biens ou des services par une population repose sur le niveau équivalent de sa production. Ça veut dire quoi? Lorsque nous sommes dans une économie fermée ou ouverte soit-elle, il faut se poser la question du nombre de la population appelée la population consommatrice avec le nombre de biens produits. Et donc, lorsqu'on pose cette équation-là, on est à même de savoir que pendant un moment X et dans une circonscription X, on peut arriver à subvenir aux besoins de la consommation de cette population-là. Alors, lorsque maintenant vous regardez l'économie congolaise, il ressort clairement qu'au niveau de la production locale, il y a un problème, il y a une adéquation dans la façon de la combinaison des facteurs de production pour répondre au problème de la consommation et de la population congolaise. Ça veut dire quoi? Regardez aujourd'hui, si nous situons notre débat au niveau du premier secteur économique, c'est-à-dire le secteur de l'agriculture, est-ce que ce secteur-là arrive à supplier, ou soit d'une manière très raisonnée, à correspondre ou à répondre aux besoins de la consommation de la population? J'ai dit non. Non, pourquoi? Puisque lorsque vous regardez la petite consommation des Congolais, à commencer par la consommation de sucre, la consommation du pain, de farine, tout ça, ce sont des biens que nous importons de l'étranger. Et à ce niveau-là, il se pose déjà un problème sur la liquidité des ménages. Puisque je vais revenir là-dessus. Deuxième chose, lorsque vous revenez maintenant sur le marché, il faut comprendre, monsieur le journaliste, qu'il ressort clairement que le niveau du revenu du Congolais ne correspond pas le plus souvent au volume de biens ou services produits sur le marché. Et cela se vérifie. Pourquoi? Lorsque la quantité qu'on a placée dans un marché ne correspond pas au volume des consommateurs, il y a désordre ou ce qu'on appelle déséquilibre en matière de consommation et de production. Et c'est ce qui pose problème. Puisque vous savez que dans un pays qui se respecte, et surtout ici je vais faire appel à la Banque centrale, lorsque on émet la masse monétaire dans une économie, il faut faire attention avec ce qu'on appelle le niveau de production, que ce soit des biens ou des services. Et lorsque l'émission d'une masse monétaire ne correspond pas au niveau de production des biens ou services sur les marchés, il y a des équilibres. Et je parie que le cas du Congo ici, c'est un problème de réglementation, n'est-ce pas, du système de rémunération des Congolais par rapport à ces besoins vitaux. Et c'est ce qui crée un véritable problème. Pourquoi? Puisque lorsque vous donnez à une population 100 000 francs, alors que son besoin réel est de 250 000 francs, nous sommes dans la difficulté.
Mais Sylvain, si nous revenons à cette question des baisses des recettes par rapport au secteur de matières premières, de minerais, il faut quand même qu'on se les dise. Mais si nous partons aussi ailleurs, dans d'autres pays, tant on regarde aujourd'hui avec la grogne au niveau de l'Amérique latine, parce que ces pays ne savent pas faire coup face aujourd'hui aux problèmes réels avec la question de production du pétrole, cela veut dire que la question aujourd'hui des liquidités, elle s'est posée déjà au niveau de recettes de l'État dans l'exportation des matières premières avant même que nous puissions connaître l'instabilité, les incertitudes sur les questions politiques. Mais est-ce que le gouvernement pouvait agir en amont quand on a commencé déjà, quand on pouvait déjà prévoir la baisse des matières? Des recettes de matières premières qui font aujourd'hui qu'on n'a pas assez de devises avant qu'on puisse revenir à une question structurelle comme celle de la production.
Bon, écoutez, monsieur le journaliste, d'abord il faut remarquer qu'il faut faire une certaine observation à ce qui concerne l'économie congolaise, comme je l'ai dit dans l'émission passée. C'est que dans notre économie, le secteur de l'agriculture souffre, alors que c'est le secteur basique. Il y a des pays, je vous cite l'État du Kenya. Au Kenya, il y a une politique gouvernementale qui oblige à ce que ceux qui occupent les plus hautes fonctions, commençant par les présidents de la République, les ministres, les députés et consorts, puissent avoir ce qu'on appelle les locaux de terre ou leur agriculture de subsistance. Et c'est très important. Pourquoi? Puisque vous soulevez là la question de la chute des cours des minerais. Et cela a un impact très néfaste sur notre économie, et je dirais même sur notre revenu, du moment où nous n'avons pas en amont placé de pistes de solutions. Entre autres quoi, est-ce qu'en RDC nous avons un grenier agricole public qui peut suppléer dans des situations pareilles à ce que la population, au soir que vous avez parlé du panier des ménagères, ne puisse pas connaître un problème? Nous n'en avons pas. Deuxième observation, est-ce que nous essayons, à travers la politique de la banque centrale, de corriger à tout moment le déficit de production, que ce soit à l'interne et à l'externe, par rapport à notre niveau de consommation? Je dis non. Troisième observation, est-ce que lorsque notre franc congolais se déprécie, est-ce que nous sommes à même de dégréger de la même façon notre niveau de production? Je dis non. Et donc, lorsque vous faites des observations sur le plan économique, vous vous rendez compte clairement que nous sommes de vivre dans une économie qui n'est pas contrôlée, dans une économie qui n'est pas calculée en avance. Or, la science de l'économétrie nous apprend déjà de pouvoir anticiper, n'est-ce pas, certains calculs de prix. Et que les résultats soient attendus, je parie encore au comité de pilotage, au niveau de la Banque centrale du Congo, nous ne réfléchissons pas à terme de l'économie anticipatif, mais nous réfléchissons en termes de l'économie archaïque et traditionnelle. Cette économie qui était pratiquée même avant, avant les trocs, cette économie qui consiste tout simplement à produire pour manger aujourd'hui, et demain on va voir demain.
On oublie, c'est ça le grand problème que nous avons dans notre économie. Merci beaucoup Sylvain pour toutes ces précisions. Vous avez rejoint notre ami Jérémy qui insistait tout à l'heure sur une bonne politique monétaire, mais il faut inscrire ça dans le cadre global, parce que la Banque Centrale elle-même, le comité de pilotage avait souhaité que le gouvernement diversifie son domaine d'activité pour apporter les devises en insistant beaucoup sur le développement du secteur agricole. Mais faudrait-il avoir des projets qui d'investissement à court, à moyen, à long terme pour faire face à cette question. Merci beaucoup. Kabeya Willy dit ceci, le problème aujourd'hui c'est qu'il faudrait qu'on pense, qu'on interroge notre histoire. Nous connaissons les stabilités politiques des années 90 jusqu'à 97, comment cela a eu de l'impact sur la dépréciation de la monnaie. Il faudrait que les politiques puissent s'en servir, mais malheureusement, chaque fois quand cette question se pose, les gouvernements, à travers le ministère de l'économie, répondent toujours que le gouvernement de la République travaille là-dessus, mais sur terrain, la situation est très difficile et nous risquons encore de connaître une grave crise. Patrick Bien-Aimé, qui nous écrit de Mbujimaï, lui dit ceci, si la hausse des prix aujourd'hui, c'est une mauvaise politique, mais aussi c'est un problème de spéculation dans cette économie libérale, comme l'État n'a pas la même mise sur les grossistes, alors chacun fixe son prix comme il veut, parce qu'il se sent libre et abandonné. Patrick Kassenga de Kananga, à l'heure actuelle de l'inflation des prix sur le marché due à la dépréciation de la monnaie et des manques de productivité au pays, ne fait qu'aggraver la misère que vit la population congolaise en général, et ici au Kassai en particulier, avec les événements de la semaine passée dans la ville avec les hommes des chefs comme Yann Sapou. Ça fait aujourd'hui que les prix des choses ont doublé sur le marché par peur aussi, et ceci, ça montre que l'État est préoccupé à d'autres choses que les véritables problèmes aujourd'hui qui touchent la population. Maître Adrien, vous êtes à Kananga. Alors pour vous, comment on peut arriver aujourd'hui à faire face à cette situation? Qu'est-ce que vous auriez souhaité que le pouvoir public puisse faire aujourd'hui pour qu'on ait quand même cet équilibre sur les marchés, surtout en ce qui concerne l'augmentation des prix de biens de grande consommation?
Oui, merci beaucoup Pierrot et la Mégie de la parole et surtout de la question que vous me posez. Je pense que ce qu'il faut faire, le temps n'a qu'à tirer toutes les conséquences sur sa mauvaise gestion. Aujourd'hui, la première des solutions d'abord, c'est de revoir et de définir la politique claire en matière économique dans notre pays. Est-ce que vous pouvez vous trouver normal dans un pays comme celui-ci lorsque vous vous présentez avec votre propre monnaie, mais il y a certaines personnes qui réfutent ça, qui veulent à tout prix que vous puissiez vous entendre ou bien payer ça en dollars. Pourquoi ne pas emprunter la politique de certains pays qui nous entourent, qui veulent d'abord promouvoir leur propre monnaie? Lorsque vous allez avec les dollars, avec l'euro, on conditionne donc les achats de ces histoires-là par la présence de la monnaie de ces pays-là. Donc c'est ce que l'État congolais doit commencer d'abord à faire dans un premier temps. Deuxièmement, l'État congolais doit renouveler son système de contrôle avec les inspecteurs économiques. Il y a nos amis qui ont eu à booster leurs commentaires sur la page Facebook. Il y a quelqu'un d'entre eux qui a eu à épingler la question des spéculations. C'est très important parce que lorsque je vois la situation qu'a connue la ville de Cannes la semaine passée, il y a eu une spéculation qui n'a pas dit son nom. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui ouvre sa boutique, tout le monde qui ouvre son magasin, et avec des prix qui lui viennent de sa propre tête. Et là, nous nous posons des questions, où se trouvent les inspecteurs économiques? Il ne faut pas, dans ce pays, qu'on puisse favoriser certaines histoires lorsqu'il y a une dépréciation de la monnaie. C'est le prix qui prend de l'ascenseur. Et lorsqu'il y a la stabilité des monnaies, on fait du surplace et personne n'est là pour demander.
Mais alors, Maître Adrien, vous avez évoqué tout à l'heure la question de l'exigence du dollar sur les marchés. Rappelons quand même qu'il y a presque une année, le gouvernement a pris la décision qu'on appelait la dédollarisation de l'économie congolaise en obligeant le magasin d'afficher les prix en francs congolais, mais cela n'empêche pas aujourd'hui sur les 10 personnes qui vont dans un supermarché pour acheter quelque chose, 6 ou 7 se présentent avec les dollars. Est-ce que le fait d'avoir affiché les prix, cela était-il une solution plus efficace aujourd'hui? Mais si on inscrit cette crise dans la globalité de la crise qui frappe beaucoup de pays qui exportent les matières premières ainsi que le pétrole, alors pensez-vous que des mesures urgentes peuvent pouvoir aider à ce qu'il y ait quand même stabilité sur le marché?
Oui, Pierrot, il faut dire que moi j'avais salué cette décision. Malheureusement, comme toutes les autres décisions, il y a eu un manque criant de suivi. On a affiché tout simplement sur chapelet la bonne intention. Et si le gouvernement s'était investi pour contrôler l'efficacité de sa décision, je pense qu'on ne serait pas sur ce qu'on est en train de déplorer aujourd'hui. Et aussi cette auto-satisfaction du gouvernement. Parce que dans tout le gouvernement du monde, nous savons très bien qu'il y a des spécialistes en matière économique qui sont là et qui tirent toujours des sonnettes d'alarme. Que voilà, si nous faisons ceci, nous allons aboutir à ça. Mais qu'est-ce qu'on n'avait pas trouvé au sein de notre gouvernement? C'était d'autosatisfaction, même lorsque la population ne sentait absolument rien. Non, chez eux, tout allait bien, on a maîtrisé le macroéconomique. Mais lorsqu'on disait que, mais qu'est-ce que cette maîtrise-là avait à faire avec, par exemple, le panier des ménagères, des citoyens congolais? On ne sentait absolument rien. Et aussi, lorsque le gouvernement s'est laissé flatter par les institutions de Bretton Woods qui félicitaient, je ne sais pas sur quelle base, le gouvernement. Et aujourd'hui, tout le monde se rend compte que non, ça ne marche pas. D'où il faut redéfinir la politique.
La politique économique. Merci beaucoup, Maître Adrien. Vous estimez que le gouvernement devrait aujourd'hui redéfinir la politique économique? C'est ce que Olivier Follot, qui était avec nous sur la page Facebook de Kinshasa, estime que la troïka stratégique qui se réunit chaque semaine a le devoir de pouvoir prendre des mesures adéquates pour pouvoir stabiliser cela, parce que sinon, pour le plus démunis, ça sera encore difficile de pouvoir faire face à cela. Et Timothy Kapinga-Mouloumé, qui est à Bilomba au Kasaï central, lui estime que, comme disait notre compatriote tout à l'heure, que si on interroge notre histoire politique, on se rendra compte que la dépréciation de la monnaie suivie de la rareté de liquidité, tout comme l'augmentation des prix, et souvent tout cela est lié à l'instabilité politique. On se rappellera de la fin du règne de Maréchal à partir des années 90, que tout devenait difficile. Il faudrait que les politiques puissent se réveiller. Merci beaucoup, Maître Adrien. Je reste, vous êtes à Bandundu Ville. Bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot, merci beaucoup pour la parole ainsi qu'à l'intérêt que vous accordez.
Alors pour vous, Jires, quelles sont les mesures qui doivent être prises aujourd'hui pour permettre à la population de faire face à cette situation?
Voilà, merci beaucoup. Permettez-moi de rappeler d'abord aux enfants à l'ensemble des auditeurs de la radio Catholique que cette situation est une situation inhabituelle parce que ça fait autant d'années où les prix des biens sur le marché n'ont pas changé et cela était un indice d'une bonne santé économique. Alors, depuis un certain temps, le prix a bougé. Alors, quand je fais des analyses personnelles, je pense que si les prix ont bougé, depuis que le prix des matières premières sur le marché mondial avait déjà bougé. Alors, je crois que l'économie d'un pays doit essentiellement reposer sur l'équilibre entre les importations et les exportations. Alors, pour que nous ayons une économie stable, nos exportations doivent être au-dessus des importations. Actuellement, personne ne me contredira lorsque je dirais que et en RDC, nous importons plus que nous exportons. Alors, parce que nous exportons essentiellement des matières premières. Lorsque les prix des matières premières bougent sur le marché, cela est normal. Donc, l'impact sera direct sur l'économie congolaise. Alors, le gouvernement ainsi que l'ensemble des Congolais doivent réfléchir sur ce que nous pouvons faire pour que nos exportations soient au plutôt supérieures aux importations. Alors que nous pouvons essayer de maîtriser la situation.
Merci beaucoup, Jires. Vous estimez qu'il faudrait des réflexions profondes pour arriver à booster l'exportation, mais rappelons quand même que 90% de biens de consommation aujourd'hui en RDC, c'est ce qu'on appelle une importation massive. Il y a aussi autant qu'il y aura ces déséquilibres, ça sera difficile que nous puissions faire face à cette situation des prestations de la monnaie ainsi que la stabilité des prix sur le marché. Merci beaucoup, Jires. Maurice, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour Pierrot et la BG.
Comment faire face à cette situation? Comment on peut arriver à faire face à cette situation?
Non, écoutez Pierrot, la situation économique, elle est compétitive. Cette situation instable que nous observons aujourd'hui, comme certains peut-être internautes l'ont bien dit, et même peut-être les tout premiers intervenants, il faut d'abord aller vous rappeler même les contextes politiques ou économiques qui avaient prévalu avant la chute de Mobutu. Et c'est le même contexte que nous avions observé avant même l'assassinat de Moïse de Joseph Kabila. C'est la même situation, comme l'histoire se répète, c'est cette situation que nous sommes en train d'observer maintenant avec en fait la fin en fait du règne du régime sulfuré au pouvoir. Alors, je voudrais dire ceci. Les économistes disent que 7 mois, une bonne politique, nous vous ferons ou je vous ferai une bonne économie. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a pas à aller chercher des raisons ailleurs. Même ce discours-là, il est très démodé, il est même anachronique lorsqu'on dit que non, c'est dans les contextes internationaux. Nous avons vu depuis combien de temps sur le plan international que le baril de pétrole avait chuté de manière spectaculaire. Mais au lieu qu'on observe par exemple la chute de prix, ou même qu'on puisse rabattre un peu le prix de carburant au niveau de la pompe, mais nous avons vu le contraire. Donc c'est pour vous dire que non, lorsqu'on évoque des raisons du contexte international, je pense que c'est juste vraiment une diversion. C'est vraiment une diversion. Actuellement, les raisons sont essentiellement politiques. Il n'y a pas d'autres raisons. Parce que, vous savez, comme ce matin, vous avez suivi les déclarations en fait, de l'administration américaine. Pensez-vous que lorsque les Américains vous disent que non, ils vont commencer à rapatrier des alertes diplomates et que la situation est volatile et dans les tout prochains jours, la situation sera vraiment très instable, la situation politique. Pensez-vous qu'un économiste ou quelqu'un qui a en fait un investisseur, disons, peut s'hasarder de mettre en fait son argent dans les conditions d'un contexte politique incertain? Non. C'est comme nous disons que l'argent n'aime pas le bruit de porte. C'est cette situation politique qui nous amène dans cette instabilité économique et qui va s'aggraver dans les tout prochains jours. Et vous allez réaliser que non, jusqu'au mois de décembre, les dollars vont aller jusqu'au-delà de 150 000 francs. Donc, il faudra commencer d'abord par résoudre la situation politique avant même de parler de la bonne économie ou de la stabilité économique.
Voilà, merci beaucoup Maurice. Vous estimez que la question doit être pas considérée sur le plan du contexte international, et vous estimez que si aujourd'hui il y a une stabilité politique, les questions politiques sont résolues, automatiquement ça va influencer la situation économique. Mais dès lors qu'on a des messages, comme vous l'avez dit, que le gouvernement américain rapatrie son diplomate et demande des prudences à ses ressortissants, que des pays étrangers disent ainsi, alors ça fait qu'aujourd'hui les investisseurs ou bien ceux qui ont des activités, ceux qui ont des capitaux ne peuvent pas voir la certitude, la confiance de pouvoir le garder en RDC, et c'est là un risque de continuer à entraîner ainsi la dépréciation de la monnaie nationale et par ricochet provoquer cette augmentation des prix de biens de consommation sur les marchés. Et pour vous, la solution doit d'abord être politique, et de cette solution politique, on pourra créer la stabilité sur le plan économique. Merci beaucoup Maurice Samos, vous êtes à Bukavu dans la province du Sud-Kivu. Bonjour.
Bonjour, Pierrot. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute.
Comme mes prédécesseurs l'ont dit, je pense que la situation que nous connaissons aujourd'hui pour ce qui est de la dépréciation de la monnaie congolaise est due d'abord à l'instabilité politique, c'est-à-dire au climat politique qui prévaut aujourd'hui au pays. Et cela démontre valablement la fin ou la chute d'un régime. C'est-à-dire, comme le professeur l'a allait signaler, vous allez vous souvenir que juste avant la chute de Mobutu, nous avons connu la même situation. Et c'était au regret de tout le monde. Vous devez comprendre et connaître que la dépréciation de la monnaie congolaise n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a déjà plus de 2 mois que nous sommes dans cette situation. Et on n'a jamais vu l'implication de nos autorités pour voir comment juger cette question. Il y a des paroles, il y a des démagogies, il y a des discours, de tout ça, disant on va voir comment remettre la situation en ordre. Mais rien ne se fait. Vous voulez comprendre, M. Pierrot, et avec tous les auditeurs, que c'est difficile pour un État qui dépend de tout, c'est-à-dire qui importe tout à l'étranger, de parvenir à lutter contre cette question qui se passe ces derniers temps. Parce qu'au Congo, nous importons tout. Même la tire dans le porto, les beignets nous importons. Nous qui vivons à Bukavu, il faut qu'on aille acheter du beignet au Rwanda. Nous sommes dans cet état qui ne peut rien décider seul et nous dépendons de tout. Voilà que la monnaie étrangère doit toujours s'imposer sur notre monnaie. Et c'est déjà un problème tellement sérieux. Mais c'est du moins notre pays, qui est un pays tellement, qui a un sol tellement riche et productif, nous avions un gouvernement sérieux, un gouvernement responsable, qui devrait justement embourser l'agriculture et parvenir à exploiter notre terre. Vraiment, nous devrions parvenir à faire face à cette situation. Vous allez vous souvenir qu'à un moment donné, on a importé des tracteurs, on a été acheté des tracteurs à l'étranger qui ont coûté des moyens colossaux à la République. Mais jusqu'à aujourd'hui, ces tracteurs traînent partout à travers la République. D'ailleurs, certains de ces tracteurs commencent à transporter des briques, des fagots partout au pays. C'est ce qui démontre que nous avons des dirigeants qui raisonnent, on ne sait pas comment, qui ont leur priorité ailleurs, abandonnant le peuple à son triste sort. À Bukavu, comme nous étions en train de le dire, le temps varie à chaque minute. Avant cette dépréciation de la monnaie, on changeait un dollar en ex-francs congolais. Mais depuis qu'on a connu cette situation au pays, aujourd'hui un dollar c'est genre 1000 francs, 1050, 1150, même jusqu'à 1200 francs. Et ceci occasionne que toutes les nécessités de toutes les marchandises sur le marché, le prix ont galopé. Et ceci dérange les habitants. Et vous allez comprendre que la population qui vit dans une misère de honte, avec un salaire de honte, on ne sait plus comment se comporter. Et une carte de dignité qu'on achetait à 900 francs, 1000 francs, aujourd'hui c'est à 1200 francs, même au-delà. Vous comprenez comment la population continue à souffrir au moment où les autorités qui devaient justement faire cette question et comme ils ont beaucoup d'argent, leurs familles vivent en Europe dans de bonnes conditions, ils ne peuvent pas s'intéresser de cette question. À chaque fois, les autorités nous parlent que non, il y a eu le problème de matières premières sur le marché mondial. Ils ne doivent pas nous convaincre avec cet argument, parce que nous savons que le Congo n'est pas l'unique pays qui est concerné par ce problème. C'est presque tout le monde au niveau international, tous les pays sont concernés par cette problématique. Mais quand vous arrivez dans d'autres pays, vous sentez que quand même les gens vivent, contrairement à la situation que nous vivons. J'étais dernièrement au Burundi, vous allez comprendre que le coût de vie permet à la population quand même de vivre en dépit de tout ce qu'on peut avancer aujourd'hui, comme des chutes du prix des matières premières.
Et là, pour vous, un mot, c'est une question aujourd'hui.
Pas des dirigeants.
Oui.
Tu peux comprendre qu'à part les matières premières, le Congo peut décoller avec l'agriculture et beaucoup d'autres matières que Dieu a mises dans ce pays. Vraiment, nous serons
mais ça sera difficile. Merci.
Merci
beaucoup, Hermos. D'ailleurs, cette question, comme on l'a dit il y a quelques mois, nous avons eu ces débats avec les auditeurs qui ont estimé, selon la demande de la Banque centrale, qu'il fallait que le gouvernement congolais pense à cela, l'investissement dans l'agriculture. Mais dommage que le projet initié avec les tracteurs, vous avez évoqué ça, près des 700 tracteurs qui ont été achetés, on n'a pas pu avoir, d'après toutes les émissions que nous avons eues, des résultats concrets aujourd'hui dans l'investissement agricole avec ces tracteurs. C'est ainsi que le gouvernement a pu initier les projets de Bukangalonzo pour la production agricole, et vous estimez qu'il faudrait mettre l'accent sur cela. Mais parce que la crise, on l'a inscrit dans un contexte mondial, il y a deux pays et les autres à travers le monde qui ont pu mener des efforts pour faire face un peu à cette situation, et c'est de cette manière qu'on peut arriver aujourd'hui à stabiliser la monnaie ainsi que stabiliser les prix sur le marché. 081-890-6315 pour intervenir en direct dans cette émission consacrée aujourd'hui à l'augmentation des prix des biens des consommation sur le marché, ainsi que la dépréciation de la monnaie nationale. Vous pouvez également rejoindre les autres qui sont en ce moment même en train de débattre sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Gérard, vous êtes à mon avis, vous gardez la ligne, on vous accorde la parole des moments à l'autre.
À la découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Des histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, c'est de la débrouille qui tient tout secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Okapi chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Okapi en balade.
Gérard, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour Pierrot, bonjour également tous les auditeurs de la Radio Okapi.
On vous écoute, Gérard.
Oui, la question est tellement pertinente. Bon, vous savez, dans notre pays, le pays est tellement grand que certaines réalités, nous pouvons dire que ça concerne les grandes villes telles que Lubumbashi, telles que Kinshasa, là où vous êtes. Et dans des milliers de ruraux, des fois, on ne sent pas cela parce que nous vivons pratiquement avec la production locale. Bien sûr, nous sommes touchés un peu par des produits.
Gérard, vous êtes avec nous? Dommage qu'on a perdu Gérard, il insistait. Là, Gérard présentait la différence entre ceux qui sont en milieu urbain, en milieu rural, où les gens vivent plus de la production locale, mais on ne saura pas aller plus loin, la réalisation pourra tenter de pouvoir de contacter Gérard qui est à monnaie du tout. Nous retournons sur la page Facebook avec Francis Mbompo qui dit ceci: la dépréciation d'une monnaie par rapport à certaines d'autres est souvent la conséquence d'une bonne politique monétaire et économique. Cette situation nous fait voir que certaines déclarations tenues en public devant plusieurs micros et caméras sont loin d'être conformes à la réalité que beaucoup des citoyens vivent en RDC. C'est aux gestionnaires de la Rose Publica de repenser leur manière de faire et de concevoir la dite politique. C'est pénible pour les citoyens congolais de la classe populaire. Némi Bussungu, des pépites, pour régler cette situation, il faut que les dollars américains retombent à un niveau normal. Mais comment y arriver? importer l'or que nous ne savons produire et nous dépendons de l'extérieur. Jérôme Kissala, de Kikwit, dans la province de Kwilu, les autorités politiques n'ont pas la confiance en leur monnaie et pour la stabilité, il faut que les dollars retombent jusqu'au niveau normal, comme on était dernièrement. Michael ICA, l'État congolais doit chercher comment y remédier. Il ne peut pas seulement s'attaquer au rôle, j'ai dit, de l'État gendarme, un rôle qu'il n'assume pas aussi à la perfection. Tout ce que le gouvernement sait faire, c'est chercher son propre intérêt, alors que le peuple se noie dans la misère. Ceci n'est pas juste. C'est face à Zongo de Guéménan, qui est avec nous sur la page Facebook, estime que tout doit être réglé dans la politique que nous définissons, ainsi que l'organisation de notre système monétaire. Phil Mangale et Dembandaka, comment une monnaie étrangère peut dominer sur la nôtre chaque fois? Si le régime est envers la fin, il y a des incertitudes et des troubles politiques. Cela a des répercussions directes sur la situation de l'économie et la situation sociale. On l'a déjà vu dans le passé. Nous devons interroger l'histoire. Corneille Bani, qui est à Kananga, lui aussi estime que la question doit être abordée de cette manière-là. C'est pour Amatoma. Cette dépréciation du franc congolais est due notamment à la non-diversification de l'économie congolaise. Les pays n'exportent pas, on dépend totalement de l'extérieur. Il serait important que des réformes soient opérées pour essayer justement de réajuster l'économie nationale. La révolution de la modernité ne doit pas être un slogan, elle doit se matérialiser dans d'autres secteurs de la vie nationale comme l'agriculture, la pêche, la liste n'est pas exhaustive. Pacifique, vous êtes à Lubumbashi, merci d'être avec nous. Voilà, on est revenu presque à ce que nous avions abordé il y a deux semaines, il y a aussi un mois, autour de cette question. Et là, on était encore au moment où le dollar s'est changé à 950 francs. Congolais, et aujourd'hui on est à plus de 2000 francs. Alors comment on peut arriver entre la Banque centrale, la structure des prix, pour qu'ils prennent des mesures urgentes qui puissent permettre à ce que la population puisse faire face à cette flambée des prix sur le marché? Quel est votre point de vue, Pacifique?
Merci Pierrot, je salue également tous les auditeurs de la radio Okapi. Les éléments sociaux sont totaux et globaux. Ça veut dire tout simplement que lorsqu'un élément change dans les systèmes ne sont plus sains. Mm-hmm. Lorsque la politique d'un pays ne marche pas correctement, il y a de quoi assister à une telle situation où la République démocratique du Congo a des problèmes sérieux sur le plan économique. La dépréciation du franc congolais, Pierrot, devrait être soutenu par les réserves au niveau de la Banque centrale en termes des devises et des matières premières, notamment de l'or. Alors, ces réserves sont déjà consommées. Or, ce sont ces réserves qui devaient aider le pays à faire face dans cette situation. Vous voyez, les dollars qui s'achetaient, un dollar qui s'achetait à 950, 940, aujourd'hui, au Katanga, à Lubumbashi précisément, les dollars, un dollar coûte 1100 et par moment 1112. Vous imaginez, Pierrot, je vous avais dit l'autre fois que lorsque je suis passé au Burundi, j'ai dû passer nuit sans manger parce que moi j'avais des dollars, on m'avait obligé d'aller chercher une banque ou une maison d'échange pour pouvoir changer ma monnaie, mais c'était très compliqué, c'était déjà un peu plus tard. Alors moi je vais proposer une solution à Pierrot. Il faut que la République démocratique du Congo essaie un peu de changer de fusil d'épaule en ces termes. Parce que nous ne voyons rien avec le macroéconomie, macro qu'on nous a chanté jour et nuit. Les effets de macro, c'est maintenant qu'on devait le vivre, qu'on devait le voir. On ne le voit pas. Voici la solution que moi je propose à ceux qui nous gèrent pendant ce moment.
Oui.
Il faut qu'ils acceptent de vendre les matières premières à monnaie locale, c'est-à-dire en francs congolais. En ce moment-là, les francs congolais seront recherchés et on aura gagné les devises qui seront notre banque centrale va aussi renflouer beaucoup de dollars et nous allons résoudre ces problèmes. Deuxième élément, regardez aujourd'hui les institutions de Bretton Woods commencent
à nous proposer de revenir encore à l'agriculture. Notre économie devait être soutenue par l'agriculture, qui a plus ou moins plus de pourcentage par rapport aux minerais. Minerais partout dans le monde, ce n'est que 15%. Faites les recherches, vous allez me donner raison. 15%, vous imaginez, et le 85% qui reste là. Ça reste pourtant perpétuer ça. Notre monnaie pourrait aussi être soutenue par l'agriculture. Pour échapper à cette loi de Gresham qui veut que la mauvaise monnaie chasse la bonne. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ça. Ça chasse la bonne monnaie qui est le franc congolais. Cette situation profite également aux opérations économiques de ces pays comme ils veulent. Et également la mesure qui a été prise par le ministre de l'économie est venue aussi encourager, créer encore d'autres problèmes qu'il y en avait. Donc, les ciments, le fer à béton, le sucre, non seulement c'est trop produit, mais ça devient là généralisé. Vous imaginez? Vous comprenez un peu cela? Ça devient très compliqué, très difficile.
Et d'ailleurs, parce qu'en évoquant le projet dans les zones d'agriculture, rappelons quand même quand le gouvernement a lancé les projets du parc agro-industriel de Bukangalonzo, l'idée c'était de voir comment diversifier l'économie, mais on aurait souhaité voir ce projet s'étendre ailleurs, et même celui qui a été initié dans les bandes d'Ondou puisse avoir des résultats concrets sur le terrain. Mais rappelons qu'il y a eu beaucoup d'initiatives aujourd'hui dans le cadre des partenariats, que ce soit la Chine qui a proposé à l'Afrique 60 milliards de dollars américains, le Japon, l'Union européenne, rappelons que 4 milliards ont été déjà décaissé de la Chine pour que les pays africains puissent en bénéficier, mais ça part d'un peu du côté de la RDC, des fois par manque de projets concrets pour voir comment profiter des fois de cet argent qui peut aider les uns et les autres à faire face à une période comme celle-ci pacifique.
Justement, Pierrot, regardez, si on devait étendre Bukangalonzo un peu partout-là, j'essaie un peu de prendre Bukangalonzo comme service national à son temps du président Laurent Désiré Kabila. Donc, avec le service national, si le service national devait viser jusqu'aujourd'hui, nous serions très, très, très loin. Oui. Et on allait résoudre beaucoup de problèmes. Il y a un autre projet qui est devenu Pierrot, c'est le projet Pressard. Je crois que vous connaissez ce projet-là.
Oui.
Pressard n'a pas fait le chemin. Il n'y a pas eu long feu. Pressard s'est arrêté à mi-chemin et on ne connaît pas les sports.
Nous
avons autant de pourcentage de terres arables.
Quand vous avez évoqué le projet Pressard, on a vu que ce soit au Kassai central, au Kassai. Disons, du temps du Kassai occidental et Kassai oriental, c'est le même problème que les gens se plaignent de fois qu'il y a des projets qui sont apportés par des bailleurs de fonds, mais qui ne répondent pas aux vrais problèmes qui se posent dans le milieu. Et c'est pas seulement Pressard, on en a vu autant, de l'argent déboursé, dépensé, mais qui, 5 ans après, cela n'a pas amélioré la situation. Des fois, c'est les projets sont mal orientés, les choix des intervenants sur le terrain, tout cela pose beaucoup de problèmes. Merci beaucoup, Pacifique de Lubumbashi Baudouin. Vous êtes ici à Kinshasa, Baudouin. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Donc, vous écoutez, comment on peut arriver à faire face à cette situation? D'un côté, il y a l'augmentation des prix des biens de grande consommation, il y a la dépréciation qui continue. Comment on peut arriver à résoudre cette question et permettre à la population de s'en sortir?
Bien, merci. Je crois qu'en réalité, tout ce qui a été dit est sur la droite ligne de la réalité de notre économie. Et j'interviens d'abord pour dire que, en fait, comme le disait, comme l'a dit l'encore vivant, Jacques Attali, un économiste français, c'est le malheur des politiques, c'est de ne pas trop s'occuper du long terme. Tout est fait à court terme, et en réalité, tout c'est bien. La dernière fois, monsieur le journaliste, vous vous rappelez, lorsque nous avions planché sur la diminution des réserves d'inflation de notre pays,
oui.
J'intervenais pour dire que le plus grand problème ou le plus grand malheur pour notre économie, c'est son orientation. Aujourd'hui, en réalité, nous sommes dans les conséquences de cette mauvaise orientation de notre économie. Nous devons arriver, au niveau de toutes les mesures structurelles que nous devons mettre en place, nous devons arriver à faire que cette orientation change et que l'émergence de notre activité économique soit mise en phase avec les besoins sociaux et les impératifs de défense du pays, ainsi que les aspirations au progrès. Notre pays va se développer
il doit être sauvé. Mais le problème, c'est que notre pays aujourd'hui, comme j'ai à le dire, c'est un pays, comme on le dit, riche en ressources. Et les pays riches en ressources se sont exposés à une maladie que les économistes appellent le syndrome hollandais. Ceci consiste en cela, en fait que, durant dans ce pays, lorsque le coût des ressources naturelles dont ils dépendent, pour notre cas ici, c'est essentiellement le minerai, lorsque le coût augmente, le pays devient l'état rentier et le pays abandonne toutes les bonnes politiques économiques, notamment budgétaires. Et ce qui fait que certains secteurs essentiels qui occupent le plus important de la population, notamment le secteur agricole et manufacturier, sont laissés à l'abandon. De sorte que lorsque les prix, les cours baissent dans les marchés mondiaux, mais les pays ont des problèmes sérieux. La Hollande a été le premier à vivre ça et tous les pays du monde riches en ressources sont exposés à ces problèmes. Et notre pays fait face justement à ces problèmes-là. Et donc, la solution, nous pensons, c'est dans le changement justement de cette orientation-là qui doit consister à faire un choix sectoriel, monsieur le journaliste, et à prendre une option socio-économique. Le choix sectoriel doit être fait sur l'agro-industrie, pas comme on l'a fait avec les Boucanalos, où c'était un petit pas. Nous devons aller vers des grands pas jusqu'à des kilomètres pour que la production des denrées de base a toujours importé essentiellement, comme le riz, l'huile, viande, poisson, tout ce qu'on peut imaginer. Vous imaginez que quand on sculpte l'assiette, par exemple, du Chinois, moi je dis assistant avec vous, mais cette assiette-là est essentiellement importée. C'est-à-dire que le ménage chinois, le ménage congolais de manière générale, doit avoir des débits pour faire face à ce qu'il mange. Donc il y a un problème d'autosuffisance alimentaire. Donc nous devons arriver à faire que notre économie existe pour les agences économiques à l'intérieur, pour que notre économie arrive à satisfaire les besoins sociaux de notre propre économie. Donc, c'est l'entreprise congolaise et le ménage congolais. Si nous continuons à faire une économie de cumoir, qui consiste à tout produire, à exporter et à avoir les devises pour commencer à tout consommer, même l'élémentaire. Vous imaginez que dans une ville comme Kinshasa, par exemple, à partir du matin, nos enfants, nos petits-enfants, ils mangent le pain, ils aiment le pain. Mais le pain est fait du blé. Mais le blé n'est pas un produit qu'on produit chez nous localement. C'est un produit étranger, américain, essentiellement. Donc, c'est une ville prisonnière du blé américain. C'est ça la réalité. Et donc, quand
alors, vous avez insisté sur le rattachement de l'économie, mais rappelons quand même qu'il y a des auditeurs qui sont revenus sur les contextes politiques. Et quand vous regardez, vous examinez notre histoire, après les troubles des années 90, les pillages, Mosé est arrivé, on a essayé de créer une certaine stabilité, le projet, comme les Pacifiques parlaient tout à l'heure, de service national, après il y a eu des troubles, des guerres, de l'instabilité, et maintenant on a eu quand même... Sans City, on est sorti, on a eu des élections et nous sommes en train encore de connaître des incertitudes politiques. Et c'est dans ces conditions qu'on peut arriver à définir de mécanismes économiques qui puissent permettre au pays de devenir stable dès lors que sur le plan politique, on a toutes ces incertitudes.
Oui, il est en fait que sur le plan conjoncturel, je dis bien, et là c'est l'économiste qui parle, sur le plan conjoncturel, on peut bien allier tous les problèmes politiques que nous avons aujourd'hui. Mais j'ai commencé par justement. Et cette sagesse de M. Jacques Attali, pour parler du long terme. Nous sommes un pays riche en ressources. Lorsque nous avons connu les années 90, vous vous rappelez par exemple, le boom que la Gécamine a connu, le cours du cuivre est parti d'environ 1250, je n'ai pas tellement la précision sur les chiffres, à 2000. Mais le régime de l'époque était devenu fou, avec les éléphants blancs, on a eu un pendant dans le pays. Mais il y a une dizaine d'années, le pays a connu une certaine stabilité sur le plan. J'allais dire un grand boom minier sur le plan du cours du cuivre et du cobalt, notamment. Et on est passé de 2000 dollars environ à 10 000. Qu'est-ce qu'on en a fait? Parce que justement, lorsqu'on est un pays riche en ressources, messieurs les journalistes, j'insiste, vous êtes donc exposés à cette malédiction des ressources, à ce syndrome hollandais, et les bons pays, même à côté de nous en Afrique, comme le Botswana, qui est un exemple aujourd'hui, qui n'a que l'or, le diamant. Mais le Botswana est arrivé avec ce comme modèle parce qu'il a mis en place ce qu'on appelle un fonds souverain. Ce fonds, on peut avoir plusieurs compartiments, un compartiment pour faire que lorsqu'il y a justement ce cours au niveau international qui pèse, que le gouvernement de manière autonome intervienne pour qu'il n'y ait pas de surchauffe dans le marché, parce que nous sommes dans un marché tout à fait de déséquilibre
chronique, effectivement, où nous devons avoir plus de devises pour faire face aux besoins de consommation même élémentaires, et dans ces conditions, lorsque vous avez fait chance là pendant une bonne période comme nous l'avions eu, et où vous avez
rapidement, Baudouin, en 30 secondes, pour permettre aux deux autres de s'exprimer, qu'on termine l'échange.
Mais en 30 secondes, pour vous dire quoi, je ne souhaite pas qu'on puisse allier nécessairement le problème de la conjoncture actuelle.
Politique, oui.
Qui en fait, voir sur le plan de l'augmentation du prix des biens et des services, par un problème essentiellement politique. Le problème politique est là. Mais l'économie aurait pu également, dans une gestion, j'allais dire, préventive, pour faire que lorsqu'on a des moyens, à un moment donné, que ces moyens-là puissent être
merci beaucoup, Baudouin. Merci beaucoup, Baudouin. Je crois bien qu'on pourra vous retrouver dans les prochaines émissions économiques pour qu'on s'étale encore, parce que la question ne peut pas être vidée en une seule émission. Merci beaucoup, Baudouin. Maître Dominique, vous êtes en Boujimaï, au Kassai Oriental. Bonjour, maître.
Bonjour, Pierrot. Bonjour.
Non, vous écoutez, maître.
Oui, Monsieur Pierrot.
Oui, on vous écoute, maître. Oui.
Oui, je vous remercie d'abord de la parole. Ça fait longtemps sur Okapi, mais comme on n'a pas assez de temps, je vais droit à la problématique.
Mm-hmm.
S'il vous plaît, il y a de mes prédécesseurs qui ont affirmé que une situation stable sur le plan monétaire, là, il se trompe. Là, il se trompe. Notre pays était sous perfusion. Hein, ça, on doit se le dire. À tout moment, M. Matata disait qu'il avait un matelas, il avait un matelas. Pourquoi? Parce qu'il n'avait jamais porté une politique structurelle. C'était toujours conjoncturel. Donc, il tenait à tout prix à lui donner un peu d'eau, un peu de sang à ce pays, parce que il nous parlait de ces matelas-là. Mais aujourd'hui, reste à savoir que Matata est devant un problème. Imaginez qu'il est premier ministre, mais à côté, on est en train de dire qu'on va nommer un autre premier ministre, on va trouver un autre. Il est une personne, peut-être qu'il a trouvé ce matelas pour pouvoir se couvrir, s'en servir comme un drap. Hein, voyez-vous un peu, parce que nous, il ne faut pas oublier cette situation, c'est de ce que les autres appellent la situation politique. Effectivement, elle a de l'influence sur l'économie, elle a de l'influence. Mais que les gens aussi ne considèrent pas seulement cette situation de Kinshasa aujourd'hui pour s'alarmer. Est-ce que vous savez qu'en Boujimaï, le dollar, à l'heure actuelle, il coûte déjà 110 000 francs pour échanger le dollar en Boujimaï. Donc, de tout ce temps, ici, on l'échangeait à 107, 106, 107, 106. Aujourd'hui, c'est 110. Vous savez qu'en Boujimaï, ça a coûté 50 000 dollars. Pendant que vous, vous souffrez chez vous là, quand il montait à 13 000 francs, et chez nous, c'est 50 000. Vous savez que le carburant, jusqu'à l'heure actuelle, nous n'avons jamais connu cette baisse-là internationale du carburant. En Boujimaï, c'est toujours 2000 francs. Mettez-vous un peu en tête cette image, comment nous vivons. Donc, dans ce pays, effectivement, il y a un problème réel. Nous avons besoin du béton et non du sable mouvant. Il faut que la politique change, que le gouvernement change, parce que ce gouvernement n'est tenu qu'à sa survie.
Voilà. Et vous avez raison, Baudouin, maître Dominique, vous avez raison, Baudouin, qui a dit tout à l'heure qu'il faut éviter de raisonner à court terme, c'est-à-dire qu'il faut avoir des mesures qui vont au-delà, considérer cette question de l'économie d'une manière structurelle plutôt que conjoncturelle, c'est ça les conséquences. Mais si on termine avec vous, maître André, vous êtes à Issiro, en une minute et demie, votre point de vue, maître André.
Merci bien, M. Spo, pour la parole que vous m'accordez en ce jour. Moi, je crois que j'ai eu à suivre mes prédécesseurs, mes compatriotes à travers la République. Je crois que tout le monde a d'une manière ou d'une autre raison. Parce que, à mon sens, monsieur le journaliste, c'est comme si dans ce pays, tous les gouvernements qui viennent, qui passent, beaucoup plus depuis que les élections ont commencé à avoir lieu, depuis 2010 jusqu'à ce jour, nous avons comme l'impression que tous ces gouvernements, tous les dirigeants de ces pays ne travaillent que dans le sens, n'est-ce pas, de la conservation de leur pouvoir. Et que donc, la situation sociale, ou comme les autres le disent, socio-économique, les préoccupe peu. Les scoutistes, ce qui importe pour eux, c'est plus faire conserver les pouvoirs qu'ils ont acquis. La preuve est que depuis que l'actuel gouvernement est en place, on ne fait que nous chanter, voilà, la maîtrise du cadre macroéconomique. Moi, je crois que à un moment donné, nous avons, nous, à zéro ici, nous avons acheté les unités à 500 francs qui revenaient, ou encore qui équivalaient, n'est-ce pas, à 1 dollar. Et petit à petit, on est allé jusqu'à atteindre 900 et aujourd'hui nous sommes à 1200.
Merci beaucoup André. Vous estimez que plus aujourd'hui les gens sont plus concentrés à la question des conservations du pouvoir. Merci aux auditeurs, vous avez été nombreux. Et c'est par là que nous terminons cette émission. Mais malheureusement, nous terminons par aux auditeurs avec une triste nouvelle. Nous sommes vraiment peinés pour vous l'annoncer. C'est tout à l'heure que nous avons appris la mort de Dr. Richard Mukalinga, qui était un fidèle auditeur de Radio Okapi, parmi les tout premiers auditeurs de l'émission Parole aux auditeurs. Dr. Richard n'était pas seulement auditeur de Radio Okapi, il était aussi plusieurs fois invité dans l'émission Dialogue entre Congolais, Parole aux auditeurs, Okapi Service. Alors, Dr. Richard nous a quittés ce matin. Nous adressons au nom de tous les auditeurs de Radio Okapi nos condoléances les plus attristées à la famille de Dr. Richard Mukalinga, à son épouse et à ses enfants, mais pourquoi pas aussi à Maman Josie et son épouse, pourquoi pas à l'ensemble des auditeurs de Radio Okapi. Et c'est que notre prière, c'est que l'âme de Dr. Richard Mukalinga puisse reposer en paix. Nous lui rendons hommage dans cette émission par les auditeurs. Merci.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Merci à toute l'équipe de production des paroles, aux auditeurs Paul Badenama était à la mise en monde et Julie Fesabongonda au standard et Gérard Gembo est à la réalisation et coordination et Pierrot et la mise vous la présenter sous la supervision de Marc-Claude Boudango fidèles auditeurs. Au revoir.